ona gitmiş kapsüle döneyle.
Medyaki sekeret de onun geldi. Sinä kirjoitsit mulle sille luuletuseve. Kui vanha sa tegelikult oled?
30.
Mis väisse ei ole?
Olen küll. See ei ole mind lihtsalt varem vaatanud.
Kertu est un film estonien du réalisateur Ilmar Harag. Ce dernier long métrage avait reçu le prix du public lors du 14e Arras Film Festival en 2013, ce qui lui a permis d'être distribué en France. C'est une histoire d'amour peu commune entre Kertu, jeune femme un peu effacée, voire légèrement dérangée selon certains, et Villou, un quadra en perdition, alcoolique et donjuan d'infortune. Une histoire qui peut sembler banale, mais pourtant le réalisateur nous entraîne dans un sombre et épouvantable thriller dramatique efficace. L'action se passe sur l'île de Saaremaa, coincée entre l'Estonie et le Danemark, un milieu insulaire avec ses comportements exacerbés qui renforcent le huis clos humain. Le choix des acteurs est également pour nous une réelle découverte. En effet, Ursula Ratazep et Meit Malmsten sont deux étoiles qui brillent avec une force poétique magnifiée par la caméra d'Ilmar Rag. Entretien avec le réalisateur qui était présent au Cinémovida d'Arras lors d'une séance scolaire avec des élèves du lycée Henri d'Arras de Liévin. Votre film Kertu a bénéficié de quelques projections exceptionnelles dans les salles de la région comme Lille, Brouet-la-Bussière, Saint-Omer, Douai, Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras. Vous avez pu rencontrer le public. Comment a-t-il été accueilli ce film ?
Ce qui est intéressant, c'est que les gens accueillent des films de la même façon. Que tout le monde comprend que c'est surtout un film d'amour. Et parfois, on a des difficultés de commencer des débats après la projection. Parce que les gens ont besoin de se recomposer. Mais après, les questions principales, c'est de comprendre est-ce que les histoires comme ça sont vraiment possibles en Estonie ? Est-ce que c'est vraiment possible tout court ?
Alors, on peut dire maintenant que vous entretenez plutôt un lien particulier avec la France, puisque je crois savoir que vous avez étudié à la Sorbonne.
Oui, je fais une partie de mes études à l'Université de Paris 3, à Saint-Cyr. Et c'était des études de cinéma et de la télévision. Et je garde de très bons souvenirs et surtout quand même Paris est pour moi une des villes de ma jeunesse. Et là, je ne peux pas les gommer.
Et vous avez également présenté un premier film, toujours sur le Arras Film Festival, qui s'intitule « Une Estonienne à Paris » avec Jeanne Moreau, qui est quand même un monument du cinéma français.
Je dois avouer, honnêtement, j'ai eu de la chance. Parce qu'avoir Jeanne Moreau dans un film d'un Estonien inconnu, c'était une chance énorme. Mais moi, je pourrais parler des heures de ces rencontres, parce que finalement, je ne sais pas si le film était vraiment aussi bien que pour moi était la rencontre avec Jeanne Moreau.
Et c'est facile de diriger une actrice quand elle est aussi...
C'est incroyablement difficile. Parce que surtout, Jeanne Moreau n'est pas juste une comédienne ou une actrice, c'est une intellectuelle. Elle demande que le réalisateur soit toujours à l'auteur. Et si tu penses que tu vas juste dire quelque chose, alors maintenant va de droite à gauche, non, ça ne marche pas comme ça.
Alors on va revenir à ce film, donc Kertu, une belle histoire d'amour, poétique et sauvage. Entre deux êtres que tout semble opposé, l'un est alcoolique et se comporte comme un ours, hein, pour le personnage de Villou, et l'autre est plutôt une colombe, craintive et très introvertie, Kertu. Quelle a été la ligne directrice de ce film ? Apparemment, vous vous êtes inspiré d'histoires vraies.
Ça, c'est vrai. Il y avait une femme en Estonie, à Saaremaa, sur cette île, qui m'a raconté l'histoire de son fils, qui était justement le Villou de ce film. Un homme un peu à la dérive, ivrogne, et un jour, cet homme reçoit du village voisin une carte postale. Et ça, c'est arrivé peut-être il y a 10 ans. Les gens de village qui sont séparés de 10 kilomètres, 15 kilomètres, ils peuvent se rencontrer au magasin lors de fêtes de la campagne. Mais envoyer une carte postale, ça, c'était quand même quelque chose qui vraiment suscitait mon intérêt. Et après, l'histoire voulait que la mère de cet ivrogne, de ce vilou, a tout de suite compris qui était la femme qui envoyait cette carte postale avec un petit poème d'amour. Ce n'était pas juste étrange. Cette carte postale a été envoyée par une femme que tout le monde considérait comme l'idiote du village. Et là, si vraiment le vilou a rencontré cette fille de 30 ans, et ils sont venus dans la maison de Villou. Là, cette femme qui me racontait l'histoire disait qu'en fait, là, dans la maison, elle se comportait complètement normalement. Donc, il y avait un décalage énorme entre le comportement en vue de tout le villageois et là, dans un espace privé à la maison. Et bien sûr, ça, c'était le départ d'une histoire d'amour.
On peut considérer que le personnage de Kertu est plutôt à l'aise quand elle a confiance, finalement.
Mais justement, pour moi, ce qui était intriguant, c'était peut-être le fait que nous, on a un pouvoir terrible d'influencer des gens. Kertu est considéré comme une handicapée parce que les autres le traitent comme un handicapé. Et puisqu'elle n'ose pas s'affirmer, elle se comporte très longtemps comme une idiote, alors qu'elle ne l'est pas.
Donc, pouvez-vous me parler justement de ces deux rôles principaux, Ursula Ratazep, qui joue le rôle de Kertu, et Maït Malmsten, qui joue le rôle de Villou, qui sont absolument sublimes dans ce film?
Toujours, quand je rencontre des acteurs superbes, moi je pense que c'est un miracle. Et quand on me demande qu'est-ce que je préfère au cinéma, ce sont peut-être les moments... lors du tournage, quand je vois devant la caméra des miracles qui se passent. L'actrice qui joue Kertu, elle a fait d'abord des études de la psychologie et après du théâtre. Mais après, elle est restée à la maison parce que, de suite, elle est devenue mère de deux enfants. Et quand on s'est rencontrés, elle avait un diplôme d'actrice, mais en fait, le film était vraiment un premier grand rôle pour elle.
C'est un premier rôle,
alors. Voilà. Elle n'a pas fait de cinéma avant. Par contre, l'autre acteur, l'autre amoureux, Maït Malmsten, qui joue Villou, lui, il est quelqu'un de très, très connu en Estonie, peut-être l'acteur de cinéma le plus important. Il pourrait être le James Bond estonien, donc rien à voir avec un paysan. Mais lui... Quand il a lu le scénario, il m'a dit que « Ok, tu peux me dégrader comme tu le veux, mais je veux vraiment jouer ce rôle. »
Est-ce qu'on peut dire que cette love story est une sorte de Roméo et Juliette des temps modernes, sur un plan général, hein, mais aussi en tenant compte de l'environnement familial, à la fois protecteur et tyrannique?
C'est possible. De toute façon, quand j'ai fait des études aux États-Unis, j'avais un professeur qui disait que les histoires d'amour ne racontent jamais qu'il y a deux êtres qui s'aiment. Et les histoires racontent toujours qu'il y a un problème qui empêche les deux amoureux d'être ensemble. Et là, dans cette histoire aussi, il y a quand même un contexte social qui crée des problèmes. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a un père fou, que nous considérons comme fou, alors qu'il se considère comme un père qui vraiment aime sa fille.
On reviendra d'ailleurs sur le rôle du père tout à l'heure. Alors moi, je vous avoue franchement que je suis pas très histoire d'amour à la base. Et quand j'ai vu ce film, je suis complètement tombé amoureux des personnages. Et ce qui les rend surtout attachants dans ce film, et ce qui est intriguant également, c'est que tous deux sont adultes. Ils vivent encore chez leurs parents, mais ils se comportent, chacun à leur manière, comme des enfants, un peu irresponsables.
Oui, ça c'est très intéressant. D'abord, pour commencer, au début, moi je pensais que je vais faire un thriller. Un crime story.
Et... Vous n'en êtes pas loin. Hein?
non, c'est vrai. Et peut-être parce que au moment de l'écriture, moi j'étais moi-même fou amoureux, j'ai décidé un peu de changer de genre. Mais cette volonté de intensifier l'intrigue ou d'ajouter un peu de tons plus sombres, ça restait du plan initial. De l'autre côté, de ce que j'ai éprouvé moi-même, c'était une compréhension que quand on tombe amoureux, ça peut nous arriver quand on a 30 ans, 40 ans, apparemment aussi 50 ans, et on va se comporter exactement comme si on avait 18 ans.
Justement, j'allais vous demander si vous pouviez me parler du processus scénaristique et de la dramaturgie du film, parce que non seulement, bah, comme vous le disiez, c'est une histoire d'amour, mais aussi, d'une certaine façon, moi je pense que c'est un thriller. Puisqu'il y a un suspense qui devient de plus en plus insoutenable jusqu'au dénouement final. Je me suis même surpris à imaginer et anticiper tout le long de l'histoire plusieurs fins différentes pour être finalement surpris par la fin. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Comment vous avez travaillé ça à l'origine? Est-ce que vous aviez déjà toutes les idées dans votre tête dès le départ, ou est-ce que c'est venu aussi petit à petit?
Il y avait une grande partie qui était prête tout de suite, parce que finalement le... Pour moi, ce qui était très important, c'est d'abord connaître le milieu où l'histoire se passe et connaître vraiment l'histoire. Et il y avait deux histoires vraies que j'ai mises dans ce scénario. D'abord, le problème que j'avais, c'est que si on prend les histoires telles quelles, elles se sont passées tout au début de l'histoire. Après, dans la vie réelle, il y avait 2 mois où rien ne se passait. Et là, pour un peu remplir ces 2 mois, quand rien ne se passe, j'ai ajouté des flashbacks de début. Mais de l'autre côté, ce qui était important quand même, et qui était l'essentiel, je voulais aussi parler d'une sorte de cruauté de la communauté rurale. Je pense que rural, c'est un mauvais mot ici, parce que cette sorte de cruauté, on peut le trouver aussi dans la ville.
Dans la ville, oui. Tout oui. Ça. Mais peut-être que le fait qu'en milieu rural, c'est beaucoup plus isolé, ça oui. prend beaucoup plus d'importance.
C'est une situation où tout le monde pense qu'on connaît tout le secret de ses voisins, mais en fait, il y a toujours encore des secrets qu'on ne sait pas. Et on est très rapide à porter le jugement. Et là, par exemple, dans Kertu, le problème, c'était que tout le monde savait que Villou, le protagoniste masculin, et qu'il est un homme à femme et qu'il couche avec toutes les femmes du village. Et ça, c'était vu comme quelque chose de plutôt amusant. Pas très moral, mais amusant. Mais alors, quand les villageois pensent que Villou a couché aussi avec Kertu, qui était considéré comme malade, handicapé, là, il y avait une sorte de morale très stricte. Alors, Villou a abusé une malade. Et ça, c'est complètement interdit. Ça, c'est tabou. Et le village agit tout de suite contre Villou. Mais pour que le spectateur puisse comprendre cette communauté du village, il fallait que le spectateur sache au début autant que les villageois. Et c'est seulement après, quand le spectateur va savoir un peu plus que le villageois.
Oui, donc si on aborde le travail au montage, comment s'est fait ce travail pour ce flashback fragmenté en différents moments du film, où justement le spectateur découvre ce qui s'est réellement passé entre Kertu et Villou le soir de la fête? Ça a été difficile?
Oui, ça a été difficile. On a changé des endroits plusieurs fois. Parce que c'était toujours une question un peu de rythme ou d'une sorte de température dans le film. Mais de l'autre côté, dès le début, déjà dans l'écriture, je savais qu'il faut le faire. Si on met le film, tous les événements dans les lignes temporelles, ça ne marchera pas. Mais de l'autre côté, quant à la fin, que je ne vais pas raconter ici, c'est... Je veux dire juste quelque chose qui était un grand questionnement pour moi-même. En faisant un peu l'enquête auprès des psychologues, des psychiatres, mais aussi des gynécologues, un gynécologue me racontait une histoire qui est passée avec elle et qui était complètement incroyable. C'était comme quelque chose qu'on peut trouver dans le film d'Hollywood, avec la tension aussi qu'on fait monter dans le film d'Hollywood. Et je pensais au début que non, je ne peux pas le faire puisque il y a certains clichés. Mais de l'autre côté, ça c'était pure vérité. C'était la vie même qui m'a été racontée. Et j'ai décidé que si on peut trouver des histoires comme ça dans la vie, alors je veux le mettre quand même dans mon film puisque ça ne change pas le message.
Si on revient donc sur le rôle du père de Kertu, et qui est quand même très ambigu. où on sait, en tant que spectateur, qu'il y a quelque chose de malsain dans cette famille, et on n'ose pas y croire, et finalement, vous décidez quand même de le rendre très humain, ce père. Si vous pourriez me dire deux mots sur ce rôle.
Oui, d'abord, quand j'ai demandé à un acteur que j'aime beaucoup, Peter Dahmer, de jouer dans le film, je lui ai dit que surtout, il ne faut pas jouer un monstre, parce qu'il y a toujours une ambiguïté. Moi, je le crois. Je crois que la vérité est toujours dans le paradoxe. Et même quand maintenant on prend des criminels, souvent, et ils ne se voient pas comme des criminels. Et ce père, même si finalement il est un monstre, il croit qu'il est fou amoureux de sa fille. C'est un homme coincé qui ne sait pas contrôler son amour. Et le résultat peut être affreux.
Vous êtes mis donc dans ce film à la place de la victime, mais en même temps à la place du bourreau aussi, en quelque sorte.
Oui, 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 oui. J'avais une discussion avec un scénariste russe qui m'a parlé de Lev Tolstoï, l'écrivain russe du 19e siècle, qui avait une conception qu'il ne faut pas que dans un conflit littéraire ou même cinématographique, il y a un mauvais et un méchant qui s'affrontent. Souvent, aujourd'hui, on voit aussi des films où il y a deux mauvais qui s'affrontent. Parce que les deux mauvais peuvent tous les deux avoir quelque chose d'humain. Mais alors, Lev Tolstoï disait que le plus intéressant, c'est quand les deux bons s'affrontent. Et là, vraiment, le spectateur doit commencer à penser à lui-même.
D'accord, à réfléchir à quel est le meilleur du bon.
Exactement,
exactement. Ise tuli! Kurat, mees! Ta ei saa aru, mis ta teeb! Sita pea selline!
Mis sa selle Kertuga jandad?
Mis ta viga on siis? Täiesti normaalne.
See villu on maganud kõigi ilbikule naistega.
Sa ei saa joomete selle pärast surnuks juua ennast!
Ta lihtsalt kasutas sind ära. Sellepärast, et sa oled haige. Ja sa ei saa kõikidest asjadest aru.
Jaan aru.
Ei, ta ei ole rumal. Ta lihtsalt kardab.
On korraga mu sees.
Ma ise
valja jalu seisan armastuse.
Je vous décrivais tout à l'heure Vilou comme un ours, hein, qui représente une certaine force bestiale, quand même primaire, et Kertu comme une colombe plutôt poétique, évoquant la douceur et l'innocence. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté animal dans leur rapport, puisque à l'issue de leur première rencontre, c'est l'attirance sexuelle qui l'emporte, sans passer vraiment par les préliminaires habituels d'une relation entre un homme et une femme. Ça, je trouve ça très intéressant également. Vous pourriez peut-être me dire deux mots, comment vous avez travaillé sur cette stratégie entre les deux personnages?
D'abord, il y a quand même une préhistoire pour les deux personnages. Pour Vilou, tout commence avec une annonce de son médecin qu'il a un cancer et peut-être un traitement va donner quelque chose, peut-être non. Donc Vilou, il a peur qu'il sera en retard. S'il ne s'agit pas tout de suite, peut-être il n'aura pas d'autre occasion. De l'autre côté, quand je pense à Kertu, qui restait jusqu'à là tout le temps à la maison, ou qui est très contrôlée par son père. Pour elle, ce qui est important, c'est de rêver d'être comme les autres femmes. Aimer, avoir des enfants, et tout ça. Et d'une manière assez ironique, si Vilou couche avec toutes les femmes du village pour Kertu, il représente une sorte voie rapide vers une féminité. Même si, moi je crois qu'elle a lu aussi peut-être des romans d'amour assez directs et romantiques, peut-être elle pourrait aussi imaginer une période où on va échanger de juste regards. Là, pour elle aussi, quand l'occasion se présente, elle n'est pas sûre qu'elle aura une autre occasion. Parce que l'image de son père est toujours présente.
Oui, donc il y a la réclusion de Kertu, hein, vue par le rôle tyrannique du père, mais aussi la rédemption de Vilou, où l'on comprend que finalement, l'amour est plus fort que tout, et que peut-être la femme est vraiment l'avenir de l'homme. cette fameuse scène, c'est une très très belle scène. Je trouve que le plan est absolument formidable. Là, on va parler plutôt technique, où ce fameux plan où on voit les deux silhouettes qui se regardent au loin, avec cet orage qui est dans le coin et le coup de foudre qui tombe finalement. Et là, on se dit, ben, c'est une métaphore parfaite pour définir l'amour. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu comment vous avez travaillé à ce moment-là, aux heures où vous avez travaillé, puisque c'était un peu la pénombre. Comment vous avez saisi ce moment ?
Ça, c'était pur accident. Parce qu'en fait, c'est dans le scénario, il est écrit qu'il se trouve au bord de la mer quand le soleil se lève. Mais pour capter le moment exactement de ce lever de soleil, il fallait que le groupe arrive sur le lieu même quelques heures plus tôt. Et donc, on est arrivé là-bas vers 11h, 11h30. Et on est allé juste voir quelle est la situation sur le plateau. En ce moment-là, on a vu au ciel ce nuage. Et c'était tellement surréel que, puisque la caméra était là, on s'est dit « Ok, on va tourner tout de suite ». Et c'était une décision de quelques secondes. Puis les acteurs ont couru tout de suite sur la place et on a tout de suite tourné ces quelques plans avec ce nuage. Et après, personne ne croyait que c'était un vrai nuage parce que des moments comme ça, normalement aujourd'hui au cinéma...
C'est rare,
on dit que c'est Photoshop, on l'a fait dans la post-production et que c'est pas possible. Alors que là, l'accident travaillait pour nous.
On comprend également que l'amour a remporté la victoire au moment où il y a cette scène où les regards de Kertu et Vilou se croisent très longuement. Lui, il est seul, perdu au milieu de la route, tenant une bouteille d'alcool à la main. Et elle, dans la voiture, avec son père, qui l'emmène pour commettre l'irréparable. Alors là, le temps est en suspension. Pourriez-vous me dire quelques mots sur cette scène? Parce que je trouve qu'elle est très forte, notamment ce visage un peu voilé de Kertu à travers la vitre de la voiture, qui est absolument formidable.
Pour moi, c'était la scène où Vilou va prendre une décision. Encore une fois, il me semble que parfois, très souvent, les scènes les plus intéressantes au cinéma sont les scènes où le spectateur voit le changement, voit comment les personnages vont prendre une décision. Et surtout quand les spectateurs comprennent pourquoi et comment ces personnages prennent ces décisions. Ce qui est important pour moi dans le personnage de Vilou, très longtemps, il pense et il souffre du fait qu'il se sent amoureux, mais amoureux d'une façon malheureuse. Et là, il comprend finalement qu'en fait, il n'a jamais avoué ses sentiments à Kertu.
Oui, c'est son côté un peu voilà. Ours, en fait.
Voilà, c'est ça. Et là, ce qu'il va faire, c'est justement... avouer que oui, c'est vrai que ce qui s'est passé là, dans la nuit, il y a un mois et demi, ça, ce n'était pas un pur hasard. Et vraiment, je suis prête à changer ma vie pour rester avec toi. Et moi, je pense, pour moi, quand je l'écrivais, ce scénario, ça, c'était aussi le moment qui déclenche une autre décision de Kertu, qui finalement mène le film vers la fin.
Cette fin, on ne la dévoilera pas entièrement, mais il y a quand même une petite frustration. Le plan final, avec cette longue route qui se déroule au loin, où là, en tant que spectateur, on peut se dire « Ah, mais moi, je veux voir la suite !» Et là, je reviens sur l'excellente idée d'avoir choisi Ursula Ratazep pour le rôle de Kertu et Mait Malsten pour celui de Vilou, parce qu'on s'est vraiment attaché à eux, et on a du mal à les quitter dans ce film. Et ça, c'est très intéressant. J'imagine que vous... Quand vous avez vu le montage final, comment vous avez vécu ce moment?
Quand on a tourné le film, on a fait beaucoup de blagues là-dessus. Et quand et comment on va tourner la suite? Donc, c'est pas la première fois quand on y pense, mais de l'autre côté, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pensé.
Oui, j'imagine qu'il vaut mieux pas. Mais c'est pour montrer que finalement, ces acteurs sont absolument formidables et on a hâte vraiment de les revoir hein, à l'écran. Hein. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser une question aussi. Nous, en France, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film qui nous vient d'Estonie. Je pense qu'il n'y a quasiment pas de films, à part un ou trois films qui ont été vus en France. Comment ils portent le cinéma estonien et comment ils s'exportent surtout? Est-ce que ça marche?
Pour les Estoniens, le cinéma estonien marche. Bien qu'en Estonie, il y a 1,3 million habitants, mais on tourne 6-7 longs métrages par an. Et parmi ces 6 ou 7 films, et normalement, il y a 2 ou 3 qui sont vraiment de bons films. Il y a toujours des films d'art essai qui voyagent assez bien au festival. Et il y a toujours un film qui est soit à Berlin, à Toronto l'année dernière, etc. Donc il y en a. Mais de l'autre côté, ça c'est le malheur dans l'Europe, dans la distribution commerciale. Là, c'est beaucoup plus difficile. Parce que, je le comprends, normalement un spectateur, quand on lui dit que voilà, il y a un film d'Estonie, il ne sait rien d'attendre. Mais le spectateur, normalement, il fait le choix grâce à une information qu'il possède d'avance. Donc, plus on sait d'un pays ou d'un auteur, plus on regarde ces films aussi. Par exemple, en Estonie, juste un label de cinéma français est suffisant pour regarder un film, même si parfois on est déçu parce que le film était mauvais, mais le film français est suffisant.
D'où l'intérêt des festivals, justement, pour faire voyager ces films. Parce que 2 ans, vous aviez présenté votre film en 2013,
oui.
Et on doit attendre 2 ans pour voir le film sortir sur les écrans français. C'est un gros problème, donc peut-être qu'il faudrait aussi, de temps en temps, réfléchir à ça, au niveau des distributeurs. C'est un peu compliqué. Alors, on peut quand même évoquer rapidement la bande-son du film qui nous berce tout le long avec la chanteuse Mari Pokinen. Comment vous l'avez choisie ?
C'est juste une très jeune fille, quand elle a composé ces quelques chansons pour le film, et elle avait peut-être 24 ans. Et surtout aussi, c'est une actrice. Donc elle n'est pas une chanteuse qui donne tout le temps des concerts. Non, mais normalement, on peut le trouver en Estonie, à Tallinn, tous les soirs sur la scène.
Et la musique qu'elle a composée pour le film Kertu, on peut la retrouver dans une bande originale ou c'est juste...
Elle a sorti en même moment un album et où il y a aussi la musique qu'elle a composée pour le film.
D'accord.
Mais il y a quelques chansons en plus.
Dernière petite question, on est en France, évidemment. Je ne pouvais pas passer à côté de vous demander votre opinion, votre regard peut-être sur les événements qui nous sont arrivés dernièrement avec ces terroristes qui sont venus à Paris pour décimer une rédaction d'un journal qui s'appelle Charlie Hebdo. En tant que réalisateur, évidemment, quel est votre regard sur ce genre d'événements ?
Oui, je pense que cette tragédie ne reste pas juste à France. Et on le connaît un peu partout dans le monde. On ne peut pas justifier le fait qu'on a tué des gens. Ça, c'est évident. Après, moi, je suis aussi pour la liberté d'expression. De l'autre côté, j'avoue, oui, il y a une partie de vérité dans les arguments qu'il faut aussi respecter la culture des autres. Mais là, par exemple, quand j'attends la suite de ces événements, quand, par exemple, on terrorise des films, des festivals de films, parce qu'ils montrent des films contre des extrémistes, là, je dis que là c'est l'autre chose. Parce qu'on a toujours le droit de parler et aussi de juger l'extrémisme.
Après la séance, une discussion a été engagée entre le réalisateur estonien et les lycéens. Quelques élèves nous livrent leurs impressions.
J'ai trouvé ce film vraiment bien. Honnêtement, je trouve qu'il est très bien construit, qu'il est très joli. Il y a de très beaux plans. Je trouve que l'histoire est honnêtement très bien. Les personnages sont assez intéressants. L'histoire est franchement bien menée et elle est très jolie.
Ce film, je le trouve très beau. La musique, les plans, la lumière font que le film est encore plus intéressant à voir. Et l'histoire est magnifique. L'histoire de la fille qui ne sait pas comment gérer parce qu'elle est légèrement malade. Je trouve que c'est une belle histoire à raconter et je le conseille à d'autres gens.
Et est-ce que vous êtes habitué à ce genre de cinéma et notamment un film estonien ? Est-ce que vous aviez déjà vu un film des Pays de l'Est ?
Non, j'ai jamais vu de film estonien, non. C'est une première fois. Ces films à romance, en général, je ne regarde absolument pas. et je me rends compte que je devrais plus, parce que c'est vraiment intéressant au final, l'amour qui est pas possible et au final qui le devient au fur et à mesure de l'histoire. Franchement, je trouve ça très intéressant.
J'ai jamais vu de film estonien non plus, donc c'est pareil la première fois, mais les films romantiques, ça je connais quand même, et bah ils changent, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, et c'est pas réalisé pareil, et je trouve ça vraiment magnifique.
Ah, c'était super, les mélanges entre les plans et la musique, les couleurs, le grain, ça apporte une poésie, ainsi que la narration, moi, franchement, j'adore, et je le conseillerais.
Moi je suis vraiment bluffé par la psychologie des personnages, qui est bien approfondie, le jeu de lumière, la caméra qui donne cet effet de surexposition. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, je conseille à tout le monde.
Et qu'est-ce que vous pensez de la dramaturgie de ce film? Parce qu'il y a quand même un suspense qui monte, et notamment ces petits flashbacks.
Oui, la tension, elle est omniprésente, on ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs, on découvre en même temps que tous les autres villageois ce qui va se passer. Alors, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. La tension, elle est omniprésente, c'est super, je trouve.
Ouais, ça permet une rupture un peu dans l'histoire. Ça permet de nous apporter des réponses, ce qui s'est vraiment passé, parce que bon, tous les villageois, ils soupçonnent Willou, le personnage qui est accusé d'abuser d'une handicapée. Et on apprend qu'en fait, non, c'est de l'amour, c'est sincère, c'est très bien, ça apporte vraiment des réponses.
C'était un entretien avec Ilmar Raag, le réalisateur estonien du film Kartu. Il était présent au Cinémo Vida d'Arras lors d'une séance scolaire proposée à des élèves du lycée Henri d'Arras de Liévin. Le film sera sur les écrans français le 4 février prochain.
Vaid lihtsalt iseenda vastu hea, sest mu süda tahab sooja, sees kui tuksub ta, ma palun sinult looja mind ikka uskuda. Siis olen kui sa, taevas ka minu üle on ta. Nii ma siis usun, kord saan taeva tippu näha. Thank you. Palja ja luu, seisan armaa.